Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui, nous sommes avec Flavie. Flavie, ça va la pêche ?
Ça va.
La banane. Nous sommes également avec Fabien. Invine, Fabien, ça va la pêche ?
Salut Rome. Bonjour les auditeurs.
Bonjour
les
à tous. Aujourd'hui, un thème qui nous est amené dans sa besace par Fabien, il s'agit d'un thème sur l'Uchronie. Alors moi, j'y connais absolument rien à l'Uchronie, donc tu vas pouvoir m'expliquer déjà ce dont il s'agit.
Est-ce que je peux faire juste un petit warning avant le podcast ?
Fais tout ce que tu veux.
Je pense, enfin, tu vois, souvent, j'ai l'impression que on nous reproche de pas faire des podcasts complètement justes en termes de faits, de trucs. Ce qu'il y a, c'est que
on me le reproche beaucoup, ça.
Ouais.
On vous le reproche pas.
En tout cas,
le
podcast que j'ai en tête et que j'aimerais faire là maintenant, c'est pas un podcast érudit dans le sens où on parlerait de l'Uchronie et puis on aborderait tous les thèmes de l'Uchronie.
Alors clairement pas. Je pense qu'on va aborder dans l'Uchronie ce qui nous plaît.
Ouais.
Et des petites idées qu'on a nous, mais on n'est pas des spécialistes.
Et en plus, alors moi j'ai donc ça, je suis tout à fait d'accord de ce point de vue-là. Et par ailleurs, moi j'aimerais bien discuter un peu de philo et de ce que l'Uchronie peut apporter au jeu de rôle. C'est enfin. Voilà. Si quelqu'un est vraiment intéressé par une compréhension lecture, complète de l'Uchronie, ou en tout cas un livre qui brosse le paysage, on va faire comme les émissions littéraires, tu sais.
Pour 99 francs.
Je vous recommande Histoire revisitée.
Je vous recommande chaudement.
L'Histoire revisitée, donc, de Éric B. Henriet, chez Ancrage. C'est un gros bouquin qui continue d'être édité, réédité, qui est hyper complet et où vraiment, ils vont chercher plein. Ils parlent de jeux de rôle aussi un petit peu là-dedans, un moment. Enfin bon, ils parlent de plein de trucs. Et donc, ça vaut vraiment la peine, je crois, si vous êtes intéressé à voir tout.
Si vous voulez quelque chose d'érudit, en gros, n'écoutez pas les podcasts de La Cellule. Vous documenter directement.
En fait, je me souviens.
Allez sur des sites spécialisés dans l'Uchronie.
Je me souviens d'un. On s'était pris le bec un moment avec Romaric, mais c'était il y a longtemps, sur le fait que moi j'aurais voulu faire des podcasts plus court magistral, et que toi tu voulais vraiment rester sur ta ligne de départ.
Une discussion entre potes. Voilà. Et comme on sait, dans une discussion entre potes, on n'attend pas d'une discussion entre potes qu'elle nous fournisse des éléments précis sur certains points. On
des
attend
des
de certains potes
imaginer,
qu'ils soient précis.
Pour aller plus loin, vous donner envie de la curiosité.
Voilà, ce qui ne veut pas dire que si vous n'avez pas des choses à ajouter, des idées, ou nous corriger. Hein, je veux dire, ça se fait aussi.
N'hésitez pas à mettre des commentaires dans lesquels, quand on fait des grosses erreurs,
on n'est pas des spécialistes de l'Uchronie. Par contre, ça nous intéresse.
Voilà, c'est ça.
Alors, on va peut-être commencer par définir ce que c'est que l'Uchronie. L'Uchronie, c'est le fait dans un récit de prendre un élément du passé, un élément qui s'est réellement déroulé dans l'histoire, de le modifier et de réfléchir à ce que l'histoire aurait pu être.
Qu'est-ce qui se serait passé si, quoi ?
C'est en gros. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se serait passé si ?
Moi, je vois souvent ça dans l'Uchronie comme une sorte d'arbre de vérité, où l'arbre de vérité principal, c'est ce qui s'est vraiment passé. Et à un moment, on prend une branche déviante. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur un point de la. On est sur la ligne du temps. Et à un moment, en fait, on va faire dévier la ligne du temps et on va expliquer comment s'est passée autrement la ligne du temps.
C'est ça. Le trait classique, en tout cas, c'est un truc qui revient trop souvent, c'est qu'est-ce qui se serait passé si Hitler avait gagné la guerre, si Hitler était devenu peintre plutôt qu'homme politique. Hitler, c'est vraiment une idée qui revient très souvent. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourra discuter. Est-ce que c'est vraiment, vraiment pertinent ?
Moi, je pense qu'il y a une raison aussi temporelle. C'est-à-dire que l'Uchronie, je pense que c'est un truc qui a été. Ça existait certainement avant, mais c'est un truc qui a été un petit peu plus. Je ne vais pas dire banalisé, mais qui est devenu un peu plus populaire au moment des récits fantastiques des années 50. Or, ceux qui ont écrit ces récits-là, ils ont vécu la guerre, ils ont vécu l'horreur d'Hitler. Donc, c'est évident, ils avaient besoin de cracher
sans
là-dessus
doute,
et de parler de ça.
Y avait quelque chose,
et puis, il y a Philippe K. Dick qui a fait un.
Alors, il y a K. Dick sur lequel on reviendra.
une chronique là-dessus. Voilà. Et qui, pour le coup, c'est le truc qui a fait connaître dans la pop culture vraiment l'Uchronie. Quand on parle de l'Uchronie, c'est le premier truc qu'on sort. C'est ah, si Hitler avait gagné la guerre, mais parce que c'est un des trucs qui est le plus connu au final dans la pop culture.
C'est marrant parce que moi, à défaut comme ça, j'aurais dit que le truc le plus connu de l'Uchronie, c'était le steampunk en fait.
Alors justement, ça c'est vrai.
Steampunk, c'est pas forcément.
Voilà. Alors, justement, sur les notions de définition, on reviendra, on reviendra plus tard sur Philippe K. Dick, mais sur les notions de définition, les histoires de steampunk, ça c'est vraiment, vraiment intéressant parce qu'on commence à arriver sur les éléments qui sont. Pas de l'Uchronie, mais qui touche justement. C'est pour ça que définir l'Uchronie, on a l'impression que c'est quelque chose de facile et en fait, ça l'est beaucoup moins.
Je pense qu'il y a deux Uchronies différentes pour moi. Il y a l'Uchronie où vraiment. C'est un récit de science-fiction presque où à un moment l'histoire a dévié, mais c'est pas pour autant que qu'il y a de la magie ou ce genre de choses. Il y a une uchronie différente. Je pense notamment aux travaux de David Case avec la chronique de l'âge des raisons, qui est l'uchronie au final qui est le plus connu dans, je suis envie de dire, les milieux geeks. Où à un moment de l'histoire, en fait, il y a de la magie, où il y a quelque chose comme ça, une technologie qui va dévier, qui va nous amener vers un récit un peu plus de fantasy. Et ça touche l'uchronie, mais pour moi, ça n'en est pas.
Alors, justement,
je te pose une question, et pour te donner la parole, Fabien, je te pose juste ma question, et puis tu prends la parole. Est-ce que ça n'a pas à voir l'uchronie un petit peu avec la dimension naturaliste, c'est-à-dire au sens où on va faire un truc, vraiment, on va essayer de voir ce qui se. Vraiment, au sens. On va vraiment essayer de voir ce qui se serait passé
si. C'est clair que quand tu parles d'Uchronie, tu as nécessairement une réflexion sur ce que c'est que l'histoire. Et donc, il y a vraiment des réflexions philosophiques. Je pense que j'aimerais vraiment revenir là-dessus après dans le podcast sur qu'est-ce que c'est l'histoire, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un événement historique ? C'est pas évident du tout ce que c'est qu'un événement historique.
Ouais, et j'aimerais juste dire un truc.
Attends,
laisse Fabien finir sa phrase.
Et donc, effectivement, il y a une réflexion naturaliste, scientifique, si tu veux. C'est-à-dire que tu peux, en tant qu'historien, t'amuser, entre guillemets, mais en même temps, c'est un vrai exercice de dire, bon, ben voilà, si on reprend chacun des événements majeurs qui se sont déroulés depuis tel moment, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, si Napoléon gagnait Waterloo, qu'est-ce qui se passe ensuite, quoi ?
Peut-être rappeler rapidement pour nos auditeurs, ce que c'est le naturalisme. Je m'y colle, tu t'y colles.
Vas-y.
C'est une photographie littéraire d'une époque et c'est effectivement le roman scientifique, c'est-à-dire un roman qui veut vraiment capter l'esprit, l'état d'esprit d'une société, d'une civilisation à un moment donné. Et il y a vraiment l'auteur naturaliste, donc dont le fer de lance, on va dire, c'est Émile Zola en France, c'est celui qui va se plonger vraiment, qui va faire des enquêtes presque journalistiques, des études sociologiques presque pour essayer de d'écrire des romans les plus crédibles, reprenant la réalité, voilà, c'est ça. Très bien.
Depuis le début, je parle un peu de science-fiction. Il y a une raison, je vais vous expliquer pourquoi. Un écrivain de science-fiction, à la base, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une technologie qui va, ça peut être une technologie inventée, et il va en déduire tout un système de pensée, toutes les conséquences qui vont découler de ce système pour les êtres humains, pour essayer de voir ce qui va se passer. Et en fait, les écrivains de science-fiction, il y a une raison s'ils sont mis à écrire de l'Uchronie, c'est parce qu'ils ont fait la même chose, mais d'un point de vue temporel. C'est-à-dire qu'ils ont choisi un événement.
C'est plus de l'anticipation.
Voilà, de l'anticipation dans le passé, quoi.
Voilà.
Ils vont choisir un événement. Ils vont le transformer et ils vont voir tout ce qui cascade après ça. C'est-à-dire, c'est la même chose que ce qu'ils faisaient pour la technologie, mais ils le font pour un événement temporel. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'écrivains de science-fiction qui ont essayé de travailler l'Uchronie.
Mmh. Oui, c'est déplacé dans la chronologie, quoi.
Exactement, c'est la même méthode, voilà, en fait. Voilà.
Alors, justement, pour revenir au steampunk, une des réflexions qui est vraiment intéressante dans le bouquin d'Henriet sur l'histoire revisitée, c'est qu'il. Enfin, alors je ne sais plus s'il le formule comme ça, mais en tout cas, il y a l'idée que dans l'Uchronie, on garde toujours la même métaphysique de l'univers.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on garde les mêmes règles générales, on garde. La métaphysique, c'est qu'est-ce qui ne change jamais dans l'univers, qu'est-ce qui est constitutif de l'univers.
Quand paramètre tout le reste.
D'accord.
Change.
Donc pour un chrétien ou un croyant de manière générale, c'est Dieu ou enfin
il n'existe pas de monde possible dans lequel Dieu n'existe pas.
Exactement.
Pour un chrétien.
Et Et puis pour un, comment dire, des physicalistes un peu plus contemporains, la physique, ça fait partie de la métaphysique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un monde dans lequel la gravitation ne fonctionne pas telle qu'elle fonctionne.
Elle peut fonctionner avec des constantes différentes. Mais
voilà, enfin, il y a cette idée que ça existe toujours. Et donc, dans l'Uchronie, tout ce qu'on dit, c'est le même monde, mais on change un événement historique.
C'est intéressant.
Un événement historique. Et donc, alors, je connais mal le steampunk, hein, mais beaucoup
d'univers steampunk.
D'univers de fantasy ou parfois même de science-fiction. Je ne parle pas d'anticipation, je parle bien de science-fiction.
Ils ne font pas que changer voilà. Un paramètre historique.
Ils font changer aussi la métaphysique, voire la physique. Enfin, il y a quelque chose qui se passe qui.
Alors, moi, pour être un petit peu plus proche de
monde.
Steampunk et le connaître vraiment souvent, c'est la vapeur, mais c'est la vapeur qui devient un peu le système métaphysique. C'est par elle qu'on peut faire de la magie, c'est par elle qu'on peut faire plein de choses. Et c'est pour ça que le steampunk ne me paraît pas être de l'uchronie. En
c'est
tant
ça.
Que tel. De la même façon que dans Greg Hays, L'âge de la déraison, c'est aussi plus ou moins du steampunk mélangé avec pas mal d'autres choses, parce que c'est un livre assez riche, mais c'est pas de l'uchronie. C'est là où, dans les systèmes littéraires qui touchent à la science-fiction, qui touchent à la fantasy, qui touchent à tout ça, il y a toujours des points sur lesquels certains livres et certains styles vont se rapprocher. Et de fait, l'uchronie et des univers type steampunk peuvent se rapprocher. Parce que le steampunk se place à la base dans un univers du 19e siècle,
ouais.
Pour la majorité d'entre eux, et on voit ce qui en découle. Mais c'est un peu la même méthode, mais finalement, on ne cherche pas à faire le même rendu ni le même propos.
Et tu vois, par exemple, un autre jeu comme la Brigade Chimérique, qui, alors là aussi, je le connais... relativement de distance, dans le sens où je n'y ai jamais joué, qui est issu de bande dessinée, me semble-t-il, et puis de tout un travail d'auteur, enfin il y a un travail littéraire assez poussé derrière. J'avais quelqu'un qui me l'avait décrit comme de l'uranium punk, c'est-à-dire que comme si les technologies sur l'uranium avaient été découvertes beaucoup plus tôt, mais en fait ça
D'accord.
permet de faire infiniment plus de choses que ce que l'uranium nous permet de faire à l'heure actuelle, tu vois.
D'accord.
Spider-Man n'est pas d'accord avec toi.
Pourquoi
c'est une araignée transformée un petit peu qui l'a piquée.
Ah oui, mais justement, tu vois, justement, les univers de super-héros ne sont pas vraiment de l'uchronie, parce que c'est toujours pas la
c'est pas la même métaphysique.
C'est pas la même métaphysique, tout à fait. Et donc c'est vachement intéressant parce que tu vois, ça permet de comprendre aussi ce que c'est que ce concept de métaphysique, et que certainement selon les auteurs, parce que la métaphysique c'est quelque chose de relatif, hein, chacun voit comme constante dans l'univers ce qu'il veut voir, tu vois. Des infâmes philosophes comme Romaric considèrent que c'est le langage et la logique en réalité qui est la métaphysique de
j'ai tendance à penser ça, oui.
de l'univers et donc
Wittgensteinien en fait,
voilà.
Quand on se lance du coup dans de l'uchronie, il y a quand même un énorme travail historique derrière et un travail d'historien poussé.
Tu vois, c'est pour ça que je comparais ça au naturalisme. C'est parce qu'il y a cette même exigence de véracité. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Pas crédibilité, mais véracité. C'est-à-dire au sens où vraiment on cherche à pas uniquement la crédibilité, parce qu'après tout,
voilà, c'est ça.
Par exemple Star Wars, c'est très très crédible.
Tout
on se laisse très facilement plonger dans l'univers de Star Wars. Pour autant, c'est pas du tout vérace.
Oui.
Il y a un côté, on le sait, avec notamment des bandes dessinées ou des Mythbusters ou ce genre d'émissions là,
ouais.
qui font. Et c'est Lou qui me semble le grand organisateur des Utopiales, ou en tout cas le fer de lance de l'événement, qui a écrit un livre justement Faire de la physique avec Star Wars.
D'accord.
Et qui explique et qui débine justement, qui explique justement que par exemple pour faire un sabre laser, il faudrait une, si on voulait que ce soit
une centrale nucléaire,
voilà, une centrale nucléaire
ça,
dans
ouais.
les mains, etc. Et donc
il y a un épisode d'ailleurs de Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même là-dessus.
Exact. Voilà.
je pense à ça.
Mais Marion Montaigne, aparté, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Hein. Moi, je recommande vraiment.
Moi, je lis son blog depuis des années.
Ouais, ouais. Et il faut lire surtout la BD qu'elle a fait, Riche, pourquoi pas toi, qui reprend les travaux de sociologie des Pinson-Charlot, qui sont des sociologues de la grande richesse et qui sont des sociologues bourdieusiens, c'est-à-dire marxistes. D'ascendance marxiste de la richesse, et c'est extraordinaire, ça permet de comprendre tellement de choses, donc voilà. Mais ça, c'est la pub pour Marion Montaigne. Et pour revenir
Véracité.
Et pour revenir un peu au jeu de rôle, finalement, tu vois, en pensant à ce podcast, je me suis dit, il y a relativement peu de jeux de rôle qui permettent, qui sont en fait vraiment de l'Uchronie.
Alors ça rejoint un autre podcast qu'on avait fait. C'est, on avait essayé de trouver un nombre de jeux de rôle sans magie, sans fantastique.
Oui, qui se passe dans un monde contemporain.
Bon courage. Hein. Ouais. Bon courage. Hein. C'est pas évident.
Et en fait, dans Henriet, il parle de GURPS, parce que GURPS, il y a Alternate Universe. De toute façon, GURPS, il y a nécessairement un supplément GURPS sur le sujet que vous voulez traiter. C'est à peu près obligé. mais moi, j'avais un autre jeu, pour le coup, auquel j'avais joué, pour une fois, en tête, qui est Retrofuture. Retrofuture, le thème général, c'est les Twisted 50s, c'est-à-dire c'est très inspiré à la fois de Philip K. Dick, justement, mais également de Dark City, c'est-à-dire c'est un univers dans lequel.
1984 aussi.
Voilà, c'est ça, dans lequel il n'y a plus vraiment de. Alors, il n'y a plus d'État, donc ça ne ressemble pas exactement à 1984,
mais il y a
des grandes corpos, et puis c'est chapeau mou, et puis il y a des technologies. Aliens qui sont arrivés sur Terre aussi, enfin
comme les micro-ondes.
je sais plus. Et même ça, tu vois.
Non, mais il y a le fameux fusil à probabilité, par exemple, qui est absolument génial.
Et puis il y a des histoires de substances mortes, qui. Enfin bon. Mais alors justement, ça à nouveau être futur. Je me dis, c'est pas non plus exactement de l'Uchronie, pas au sens où on le définissait.
Moi, j'ai une question du coup.
Parce
sur
que justement,
un jeu
la métaphysique
est changée.
J'ai un jeu de rôle qui me vient en tête. Par contre, je suis incapable de retrouver le nom. Ça se passe au moment de l'Inquisition.
Vampire. Inquisition.
Non.
Les vampires, c'est un peu comme
GURPS. Tu peux le mettre dans n'importe quel.
Toulouse, c'est pareil.
Toulouse, c'est pareil. Non, c'est un jeu. Le titre est en latin. C'est pas une nominée sataniste.
Tédéum pour un massacre.
Tédéum pour
et
un massacre.
Et je me pose la question pour Tédéum pour un massacre, du coup.
Tédéum pour un massacre, j'ai l'impression que ça se range pas dans l'Uchronie, sauf erreur de ma part. Ça se range dans les jeux historiques.
Ouais. Comme Miles Christie.
Comme Miles Christie, voilà. Mmh. Et...
Mais du coup, quand on joue, on est forcé, vu qu'on est des PJ, de ne pas respecter l'histoire. Donc à partir de là, moi, je me pose la question de savoir s'il y a un jeu historique. Ne devient pas forcément de l'Uchronie.
Ça, je trouve ça vachement intéressant comme idée.
Joli.
En fait, tu rejoins une problématique qui avait été développée dans un bouquin qui s'appelait Jouer avec l'histoire, qui avait été. C'était Olivier Caïra qui avait dirigé ça. Et dans lequel il débattait un peu de cette espèce de difficulté de. Il y a une histoire qui s'est passée comme ça, donc il faut la respecter. Mais en même temps, j'ai envie, moi, d'être, comme MJ, d'être créatif. Mes joueurs, j'ai envie qu'ils puissent prendre des libertés et faire des trucs qui étaient incroyables. Donc,
genre, tu peux aller tuer Hitler, quoi.
Voilà, c'est ça. Et donc, ils proposaient différents trucs. Ils disaient, vous pouvez jouer soit des gens qui ont eu peu de marques sur l'histoire, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant, soit jouer dans des endroits de l'histoire qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a plein de zones grises dans l'histoire.
Tout à fait.
Et justement, je me disais, c'est étonnant que dans le jeu de rôle, on n'ait pas plus exploité cette idée d'Uchronie en disant, tu vois, tu peux partir d'un cadre historique que tu auras très très bien connu et dire, ok, vous allez jouer maintenant des grands de l'histoire, des grands, tu vois, il y aura peut-être un beau jeu de rôle à jouer où tu joues.
Alors moi, je pense savoir pourquoi. Pourquoi ce serait difficile.
D'accord.
Attention, je fais un petit moment troll, je crois.
Oh mon dieu.
Oh non.
C'est pas méchant. Mais je pense que les gens qui sont intéressés par jouer des jeux historiques sont forcément un peu historiens. Et on a tous joué avec des spécialistes une fois à une table. Le gars qui te fait chier parce que le pouvoir que tu fais avec de la gravité, c'est pas possible parce que la gravité, c'est pas comme ça et que du coup, le pouvoir que tu fais, c'est pas possible.
Les gens chiants, ça existe aussi à L5R, par exemple. Les gens qui connaissent parfaitement l'étiquette ou parfaitement l'univers.
Il y a des gens chiants partout, les gars.
Mais du coup, quand on joue un jeu comme ça, il faut quand même bien mettre en place un contrat social. Or, le contrat social dirait, on va jouer avec l'histoire, là, certes, à la base, c'est historique et tout, mais c'est pas grave si on fait dévier. Mais comme on est bien placé pour savoir qu'à une certaine période, les jeux ne plaçaient pas véritablement de contrat social, c'était quand même un peu casse-gueule, je pense. Ouais. Donc, du coup, je sais pas si ça a été vraiment tenté en tant que tel.
Ou une autre manière...
Alors, quelle est ta question exactement, Fabien ? C'est pourquoi il n'y a pas eu plus de réflexion dans le jeu de rôle autour de l'Uchronie ?
En fait, j'ai pas vraiment de questions.
Présentement, je veux dire, pas pour ce podcast en règle générale, mais maintenant. Ouais, d'accord.
Présentement, ce que je dis, c'est pas vraiment une question. J'aimerais inviter. Réflexion. C'est une idée de game design que je partage et qui est de dire tiens, on pourrait prendre un moment de l'histoire et puis jouer dedans en se disant on va vraiment changer
le cours du temps,
changer l'histoire, refaire les choses à notre manière. Et pour aller plus loin,
puis j'ai plusieurs éléments de réponse.
Alors
aussi,
pour aller plus loin, un autre truc que je trouverais génial, souvent comme créateur c'est assez difficile de s'attaquer à un cadre historique parce que on n'est pas historien, parce qu'on connaît mal le sujet et que si on veut respecter une époque, si on veut respecter, ça devient compliqué.
Ouais.
Mais justement avec l'Uchronie, tu vois, tu peux t'approprier une période historique et en faire quelque chose qui soit tien et dans lequel les gens vont pas venir t'embêter en disant ouais mais Mazarin il avait pas existé à cette époque, enfin il était pas là parce qu'il était je sais pas au siège de La Rochelle, ou enfin j'invente un peu à la volée, et tu peux dire mais si, parce que en fait Mazarin dans mon univers dans lequel je sais pas les protestants n'ont pas gagné, ou en tout cas les protestants ont conquis la moitié du monde, il se passe ça, enfin tu vois.
D'accord.
Je pense aussi que ça doit être assez compliqué parce que mine de rien, quelle que soit la période de l'histoire, il y a eu des crasses qui ont été faites à des minorités. Et que, à moins de jouer des gens de qui tu te sens proche, il est facile quand tu es créateur de jeu d'avoir une remarque du type mais attends, tu peux pas parler de ça, toi tu connais pas les Black Panthers, ou tu connais
ça,
pas
je
les.
Je suis d'accord, mais en même temps, personnellement, je trouve ça légitime.
Ah, oui, mais je pense que du coup, c'est assez casse-gueule, donc c'est quand même plus simple, entre guillemets, de faire un univers un peu badass avec, avec de la magie, et que du coup, tu évites un peu les soucis, quoi.
Je pense aussi que cette question, elle ne peut émerger qu'à partir du moment où on a compris que le jeu de rôle est quelque chose qui peut intégrer des problématiques sérieuses, Fabien. On vient quand même d'un milieu dans lequel, pendant très très longtemps, c'était le jeu de rôle, ça ne doit pas être sérieux, ça doit rester jeu.
Enfin, spécifiquement pour l'Uchronie, ça n'a pas besoin d'être, ça n'a pas nécessairement besoin d'être d'être sérieux. Tu peux dire, je prends telle période et je me la réapproprie en changeant un événement.
Alors, moi, je pense que le premier élément de réponse à cette problématique a été donné par Flavie tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en un sens, les rôlistes font nécessairement de l'Uchronie.
D'accord.
Ils veulent en fait revoir l'histoire et rejouer l'histoire.
Et justement.
Et je dis bien rejouer l'histoire.
Et justement,
pas uniquement revivre l'histoire.
Assumons cette Uchronie nécessaire, quoi. Tu vois.
Bien sûr.
C'est ça ce que j'ai envie de.
Oui, parce que sinon, tu ne fais qu'assister aux événements de l'histoire, et donc on se retrouve dans un canon. Mais en même temps, il y a un espèce de paradoxe parce que les jeux de rôle qui se disent historiques, ils annoncent d'entrée de jeu, je trouve, dans leur promesse, si j'ose dire, l'idée qu'on va apprendre des choses historiques. Et donc, si on change trop,
oui,
le problème, c'est qu'on ne respecte pas cette promesse.
Justement,
qu'on va apprendre des choses.
Il y avait dans Les Forges de la Fiction, à nouveau, d'Olivier Caïra, il parlait un moment des motivations des gens pour jouer. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec sa qualification, mais il y avait au moins un point qui était intéressant sur la dimension d'érudition.
Ouais.
Et il citait, il me semble, dans Pavillon Noir, la soute de Sainte-Barbe, enfin la pièce de Sainte-Barbe, dans laquelle il y a la poudre qui est entreposée, et puis c'est une partie très particulière du vaisseau qui doit être éloignée de toute flamme et en même temps de toute eau. Enfin bon, il y a des.
Un troisième élément qu'on peut donner, c'est que, en fait, le canon esthétique d'une époque donnée, ce n'est rien d'autre que les événements historiques qui s'y sont déroulés. Je prends un exemple précis, par exemple le jeu Théocalie de Simon et de Colline. Il se place dans une île autre part, un ailleurs en fait, qui n'est pas du tout historique absolument, mais pour retrouver le canon esthétique des Mayas, des Incas, etc., ils sont obligés de présenter des œuvres qui ont réellement existé, des calendriers qui sont de telle constitution, etc. Alors c'est là qu'on en revient à l'événement historique ou l'objet historique. C'est ça qui est très intéressant, c'est que, ok, dans Théocalie, il n'y a pas, les événements historiques qui se passent ne sont pas strictement identiques, mais déjà ils sont très semblables. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, dans Théocalie, les objets, eux, par contre, l'esthétique des objets, l'artisanat et l'art des époques décrites sont bel et bien des objets.
Pourtant, c'est
qui
pas
sont
une, c'est pas une Uchronie quand même.
C'est très intéressant.
Parce que
ce que je veux dire par là, c'est que s'il est très très difficile de jouer dans un canon esthétique donné sans respecter une part de l'histoire donner. Et donc, du coup, voilà, ça c'est le... Et puis j'ai un dernier élément, qui, puisque tu disais tout à l'heure que ma métaphysique, c'est un petit peu le langage. Il est extrêmement difficile pour des Occidentaux du 21e ou du 20e siècle d'aller avec leur esprit occidental dire on va jouer comme des Chinois du 13e siècle.
Ou même comme des bourgeois et, du 19e.
Ou même,
on
voilà,
est
c'est ça.
Terriblement éloigné d'eux, hein, et actuellement.
Même, et regarde, même aujourd'hui encore, des problématiques qui émergent sur les ateliers imaginaires, ouais. avec des jeux comme Éveil, comme La Cause de Morgane, qui sont que, est-ce qu'on peut jouer des mouvements sociaux, même contemporains, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas si éloignés de nous, je veux dire, on vit à la même époque,
est-ce,
etc.
Est-ce qu'on peut jouer...
Est-ce que c'est si facile que ça
ouais. Est-ce qu'on peut parler... Ouais.
Et ça, la problématique est linguistique. Est-ce qu'on a le même langage, est-ce qu'on a les mêmes codes, est-ce qu'on a la même société construite dans notre tête ?
Moi, je parlerai des codes sociaux, des cadres de pensée.
Alors, les cadres pensés, ce sont pas des choses qui sont transmises par le langage, Fabien.
Pas que par les objets.
Pas
aussi.
Que, mais beaucoup quand même. T'es d'accord avec moi ?
Je te. Bon,
mais t'as rien coup, c'est un autre problème. T'as rien qu'à ça. Je trouve que dans l'Uchronie,
tu vois, ça, c'est le genre de truc.
Dans l'Uchronie, quand on joue avec l'histoire, on est forcément amené, du coup, à juger un peu de l'histoire qu'il y a devant nous. Ne serait-ce que parce qu'il va falloir qu'on fasse des choix dans cette histoire. Et je pense que du coup, ça n'attire pas les mêmes joueurs que quand tu vas faire un Star Wars, pour reprendre ton exemple.
Bon, juste pour préciser ce que venait de dire, ce que sous-entendait Romaric, hein, c'est l'insulte.
L'insulte, voilà.
Porte un cadre de pensée.
C'est ça, oui.
Oui, mais enfin, c'est pas que. Il y a aussi les objets disent des choses, les structures ouais. économiques disent des choses.
Enfin, moi j'ai entendu des joueurs jouer des Chinois du XIIIe siècle se dire des choses. Qu'ils ne pouvaient pas
oui,
objectivement
mais
se dire.
C'est toujours le cas, en fait.
Père Palnor.
Ou même parler en français.
Oui, ou même parler en français, tout simplement. Donc
pardon, on revient,
et on revient à ce
on
que
revient
tu disais,
toi, Flavie. Excuse-moi.
Je pense que quand on joue dans une époque historique donnée, du fait de l'éloignement, on va forcément être amené à finalement porter des jugements sur cette époque. Je pense que du coup, l'Uchronie va forcément avec un certain propos de jeu. On venait pas là pour jouer des héros badass avec des gros flingues qui vont aller buter l'empereur. On est là pour faire autre chose.
Alors, je suis pas d'accord sur toi pour dire qu'on porte des jugements sur l'époque. Par contre, on porte des jugements sur les personnages que l'on incarne à cette époque.
Les personnages qu'on va rencontrer.
C'est un peu différent parce que moi, j'ai jamais entendu des joueurs de jeux de rôle se dire putain, quand même, c'était vraiment c'est vraiment une sous-culture, ça, ou un
oui,
truc comme
mais
ça.
C'est, ouais.
Parce que
j'ai,
si c'est le cas, c'est dangereux.
Des sacrées quantités de réflexes racistes, homophobes, sexistes.
Mais tu vois, c'est toujours sur
culture.
Ouais, ça porte toujours sur des personnages, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on dit, ça, c'était quand même des gros salauds, tu vois.
Oui, ils étaient vraiment forts. Enfin, oui,
c'était vraiment fort.
Oui, à l'heure actuelle, il y a une.
C'est toujours l'humain qu'on juge. C'est ça que je veux dire. Pas l'époque.
Une passion pour les samouraïs, tu vois. Genre le samouraï, c'est un exemple de masculinité. Enfin bon. Moi, je dois dire, pour revenir un peu sur exactement sur le débat qu'on avait tout à l'heure, ce qui me plaît bien dans l'Uchronie, c'est qu'il y a une dimension de déplacement. Je dis souvent que moi, ça ne me pose pas de problème que tu parles de questions de race, de classe, que tu n'as pas vécu personnellement ou sur lesquelles tu n'es pas particulièrement spécialiste, à partir du moment où tu le déplaces dans un autre univers. Dans Monostatos, je parle de révolte et de système politique, mais c'est un monde qui n'est pas le monde humain. Donc je ne parle pas des luttes de 1848 ou de 1871. Enfin bon, c'est complètement c'est différent comme monde. Donc tu t'affranchis un peu d'une part de la responsabilité historique. Et je trouve que justement l'Uchronie, c'est un peu
l'inverse.
C'est entre les deux, parce que tu peux à la fois avoir une réflexion historique poussée et en même temps parce que tu as admis qu'il y a eu un changement dans le passé et que ce changement a impacté tout le reste, ça te donne plus de liberté aussi, tu vois, qui te permet de...
Moi, je trouve que l'Uchronie, tel qu'on l'a présenté jusqu'à maintenant, en tout cas, ça a l'air d'engager au contraire à la véracité et beaucoup plus... Il y a une exigence de recherche.
Il y a une exigence de recherche, mais en même temps, il ne faut pas oublier que sur le chemin de temporel, ça a dévié.
Voilà.
Donc, du coup, ça justifie le fait qu'on va pouvoir parler de ce truc-là sans se prendre la tête.
Je suis d'accord avec Fly.
Uchronie, alors tu dirais Uchronie, genre rôlistique par excellence ou
pas nécessairement, mais en tout cas qui mériterait d'être plus fouillé par
mais
le.
Il
n'y
avait pas un jeu, alors malheureusement j'y ai pas joué, mais
j'ai
un jeu.
Sensation qu'ils l'ont fouillé.
Un jeu de rôle sur la Révolution française.
Oui.
Oui, avec le grand œil et tout
ouais,
ça.
Ouais, sur des cas système.
Chaos.
Chaos 1784.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Chaos.
Alors, j'y ai pas joué,
non,
mais
c'est pas 1784.
On l'a ici, mais moi, tout ce qui est des cas système, j'ai du mal. Je suis désolé pour les 12 singes. Regardez, par exemple, effectivement, on n'a pas testé beaucoup de
jeux.
Mais tu vois,
ça, c'est intéressant, mais... C'est, Alors déjà, c'est pas très longtemps après la Révolution, donc si tu vois, on n'a pas eu l'évolution de tout ce que ça pouvait être. Mais c'est clair que c'est un genre d'uchronie à très court terme, quoi. Parce que il me semble que ils invoquent un grand œil. Enfin, ça a l'air débile comme ça, mais je trouve le concept de base assez génial.
Mais est-ce que c'est pas la métaphysique qui est changée quand même ?
Et justement, voilà. C'est pas vraiment un travail. Enfin, il y a un travail d'historien, mais en même temps, on triche avec un peu avec le monde tel qu'il est. Ce qui veut pas dire que c'est pas intéressant. C'est juste, je suis pas certain que ça puisse être exactement de l'Uchronie.
Mais c'est cette dimension métaphysique, en fait, c'est-à-dire. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on change pour que ce soit de l'Uchronie ?
C'est vrai qu'il y a quand même cette dimension de véracité historique.
Mais oui.
Tu vois ? Alors, et justement, là, on pourrait aller un peu plus dans qu'est-ce que ça signifie la véracité historique ? Parce que ça, c'est vraiment des questions de philo.
C'est un point de vue.
Ça me rappelle Paul Veyne.
Pour moi, c'est un point de vue, la véracité historique.
Ouais. Alors.
Un point de vue d'historien.
Fais péter, Fabien. T'as une idée derrière la tête.
J'aurais un milliard de, choses.
Vas-y, dis tout. Dis-les toutes.
Je peux commencer par le fait de dire que ça me vexe toujours quand j'entends, quand je lis des commentaires de gens qui nous disent ouais, ça va être élitiste, ça va être pompeux, ça va être pète couille.
C'est de plus en plus.
Je pense que c'est exactement le contraire de ce qu'on fait. Enfin, en parlant de philo ou de trucs comme ça, c'est l'exact. L'élitisme, ce serait si on le gardait pour nous et qu'on sélectionnait. Oui, alors que en tout cas, moi, j'essaie vraiment de pousser les gens à dire c'est intéressant, aller voir, il y a des choses qui peuvent nous renseigner sur notre loisir. Bon. Mais voilà.
C'est rare comme commentaire.
D'accord.
C'est de plus en plus rare. Ça a été un peu le cas au départ. Maintenant, ces gens-là ne nous écoutent plus et ils ont laissé place à des.
Je dis ça simplement pour me prémunir de ce que je vais raconter ensuite. Donc, qu'est-ce que c'est l'histoire, en fait ? Je crois qu'il y a vraiment deux distinctions à faire. Déjà, est-ce que l'histoire a un sens ? Et si elle a un sens, qu'est-ce qui crée l'histoire ? L'idée que l'histoire n'a pas de sens, c'est une idée qu'on arrive assez bien à. C'est que l'histoire est faite de chaos, que ça va dans toutes les directions, qu'il n'y a pas de
sens justement,
qu'il n'y a pas de raison, que l'histoire est absurde.
Il n'y a pas de ligne éditoriale dans cette histoire.
Exactement. c'est une idée qui est très développée par quelqu'un comme Schopenhauer, qui justement s'oppose au philosophe de la fin de l'histoire, qui est Hegel.
Hegel.
Et en fait, en réalité.
Et dans un extrême inverse, je pensais à Auguste Comte aussi, en un sens.
Alors,
le positivisme. Le positivisme, en un sens.
C'est aussi une forme de fin de l'histoire.
Oui.
Et l'idée que l'histoire a un sens, ça veut dire qu'il y a des forces qui peuvent être de nature métaphysique, justement, qui peuvent être de l'ordre du progrès humain, qui peuvent être de l'ordre des tensions économiques entre les classes sociales.
Ouais, c'est dans ce genre de choses qu'on peut entendre des stéréotypes du genre « Ah, il y a des cycles dans l'histoire !»
Alors, tu peux penser qu'il y a des cycles économiques sans nécessairement qu'il y a un but.
Ouais,
tu vois.
Je pense plutôt le cycle de l'histoire, dans c'est l'histoire. Généralement qu'il y a des gens, quand ils disent ça, qui pensent que du coup, à certains moments, l'histoire s'arrange pour qu'il y ait des gros clashs,
voilà.
Tu vois.
C'est une idée. On va faire peut-être un peu le tour des philosophes qui pensent la
Fabien,
fin de l'histoire.
Je voudrais juste un petit point de clarté et d'exigence,
oui.
C'est-à-dire que il faut qu'à chaque fois qu'on cite des philosophes et des thèses, on essaye un minimum d'en présenter.
Bien sûr.
Là, on a parlé Auguste Comte.
Oui, non, mais justement,
je suis pas sûr que nos auditeurs.
C'est exactement ce que je voulais faire. C'est simplement dresser un peu le plan. Et j'avoue aussi faire un peu la clarté dans ma tête. Je pense que les premiers à penser les premiers qui me viennent à l'esprit quand on parle de fin de l'histoire, c'est quand même beaucoup la pensée chrétienne. C'est-à-dire l'idée que l'univers va vers un moment qui est le jugement dernier, qui est l'apocalypse.
L'apocalypse.
La révélation, Dieu se révèle au monde. Le monde.
Ça fait mal. Quand tu te révèles au monde, ça fait mal.
Inférieur prend fin. Qu'est-ce qu'il y a ?
Bah, il prend fin, donc ça fait mal. Quand
oui.
Dieu arrive, tout se termine. Alors,
oui,
c'est
et
pas
puis
pas
le monde, le monde véritable du salut, la Jérusalem céleste, s'impose dans le. Enfin, je suis pas théologien, donc j'aurais du mal à expliquer exactement ce que c'est, mais je trouve que c'est vraiment parce que toutes les cultures n'ont pas pensé l'histoire comme quelque chose qui se développe de façon linéaire. Mmh. Alors qu'il y a vraiment l'idée qu'il y a une création, Dieu se révèle plusieurs fois à travers des prophètes, à travers le Messie, et qu'un jour le Messie reviendra et ce sera la, ce
mais
sera
la c'est, fin en fait, du monde. C'est, excuse-moi Fabien, mais c'est juste de l'anthropomorphisation de l'histoire en fait. C'est-à-dire que les mecs ont pris leur histoire personnelle, c'est-à-dire la naissance, un certain nombre de révélations, puis la mort, et puis ils ont dit, bah, en fait, le monde, peut-être, ça doit être comme moi.
Peut-être. C'est... je ne suis pas convaincu par cette... mais enfin, ouais. En tout cas, voilà. Et en fait, c'est une idée qui revient assez souvent. Il y a un penseur chrétien qui s'appelle Teilhard de Chardin, et qui est vraiment quelqu'un de très, très intéressant, parce que c'était un jésuite, me semble-t-il. Et c'est, donc, c'est des gens qui ont à la fois une formation scientifique très poussé, enfin scientifique de sciences dures, qui, donc qui était paléontologue, et en même temps une formation de théologien très poussée. Et lui développe l'idée, on est d'accord avec ou pas, hein, mais je trouve l'idée intéressante, que le développement, qui est en fait un développement de la conscience qui mène à l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain est l'aboutissement d'un développement, et que donc ça fait lien avec justement cette progression vers Dieu en fait, de l'histoire du monde.
D'accord.
Par exemple, il y a un texte dans lequel il explique que selon lui, on a des appareils de plus en plus des appareils nerveux, hein, de plus en plus poussés. Et qu'à un moment, il y a un moment de bascule dans lequel ces appareils nerveux produisent la conscience.
D'accord.
Là aussi, hein, c'est pas sûr que les grands singes et plein d'autres animaux aient pas la conscience, en tout cas quelque chose mais que la conscience est l'aboutissement d'un processus.
J'entends Darwin.
Alors justement,
il dit qu'il est pas content.
Ouais. Darwin d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui dirait non, il y a pas de sens. Alors là, c'est pas l'histoire au sens où on l'entend habituellement, mais il y a pas de sens à l'évolution animale autre que
les trucs qui pop, il y en a qui survivent, il y en a qui survivent.
Les animaux ont tendance à s'adapter le mieux possible à un certain environnement.
Seuls survivent ceux qui sont adaptés, surtout.
Non, pas
ça,
tout à fait.
C'est plutôt l'autre.
Tu peux être sous. Enfin, oui, à travers l'évolution, à travers la sélection.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais c'est pas la marque.
Oui voilà, c'est ça.
Chez
c'est
la marque,
plutôt la marque.
T'as l'idée que les animaux, durant leur vie, les individus, durant leur vie, se transforment pour s'adapter à leur environnement. Alors que non, en fait, c'est.
Alors,
c'est
on présente rapidement les deux positions, là, encore une fois. Un petit peu de pédagogie. Darwin, l'idée, c'est qu'il y a des caractères chez les animaux, chez les individus qui pop. Totalement de façon chaotique, ouais. Aléatoire. Les mutations arrivent, pouf, 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 pouf. Et
c'est
parmi
la nature
ceux
qui fait des tests et s'amuse.
Non, ah, justement, en disant ça, tu anthropomorphises la nature,
oui,
comme s'il y avait quelque chose qui. Non, pour Darwin, c'est pouf, 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 ça pop. On ne sait pas pourquoi ça pop ni où ça pop, mais en tout cas, ça pop. Et ceux qui ont popé les bonnes capacités d'adaptation, c'est-à-dire ceux qui ont popé les trucs qui leur servent bien à survivre, bah, eux, ils se reproduisent. Et donc, du coup, ça fait que les caractères adaptés survivent et les caractères inadaptés, qu'on popé mais qui sont inadaptés, ne survivent pas.
Ce qui veut dire aussi qu'il y a des zones de gris,
c'est la
on peut être
Darwin.
Mal adapté et continuer à vivre quand même dans un environnement.
La version là, Marc, c'est que oui, il y a effectivement des espèces qui survivent et des espèces qui se meurent, mais elles s'adaptent, au sens où elles analysent leur environnement et dans des contextes donnés, elles vont progressivement, par des gestes, par exemple la girafe va allonger son cou parce qu'elle cherche à atteindre en fait des
feuilles en hauteur
et donc du coup, elle, par un geste répété d'effort pour atteindre, au fur et à mesure, elle va transmettre le fait de faire cet effort à ses petits, et etc. Donc c'est très intéressant.
Donc, revenons un peu au philosophe de l'histoire, non ?
Oui, tout à fait. Alors, je rappelle que le lien avec l'Uchronie, parce qu'on va nous dire qu'on est hors sujet, mais non, pas du tout. Parce que fonction du sens que vous donnez à l'histoire, eh bien, dans votre Uchronie future, vous placerez les éléments métaphysiques que vous pensez nécessaires. Et je dis bien nécessaires, pas possibles. Mais nécessaire.
Et donc, Fabien. Alors, sur Hegel, il va falloir m'aider un petit peu parce que je connais très bien Marx, évidemment, mais je connais moins bien Hegel.
Alors là, tu me Hegel, prends un brûle pour point.
Donc, c'est rapidement, c'est l'idée qu'il y a un sens de l'histoire qui est guidé par la raison, avec un
grand R,
ouais,
tout à fait.
Et que ça amène vers des sociétés avec de moins en moins de conflits. Donc, à son époque,
c'était de dire, ben voilà, et donc il y a une fin de l'histoire, c'est un moment où on atteint une espèce d'équilibre qui se répand partout et qui met fin au grand conflit. Donc par exemple, à son époque, c'était Napoléon. Mmh. C'est-à-dire que lui avait l'idée que Napoléon...
Je voyais la raison passer à cheval. Ouais, c'est ça.
Ah, j'entends Hegel encore. Ah, il dit qu'il s'est trompé. Il dit qu'il s'excuse.
Voilà, parce qu'évidemment, évidemment, après Napoléon, c'est pas resté longtemps. Et on a continué. Et alors, ça aussi, peut-être qu'on leur rend pas justice, mais enfin, les philosophes de, c'est quoi, c'est Fukuyama, le philosophe de l'histoire. Il y a un philosophe américain de l'histoire qui s'appelle Fukuyama et puis qui développait l'idée que la démocratie représentative est-elle capitaliste, était la forme achevée de l'histoire, qu'elle allait se répandre partout dans le monde et que plus personne ne la contesterait. Évidemment, il dit ça.
On le voit bien.
Il dit ça dans les années 90 et en 2001, il y a les deux tours qui s'effondrent. Donc ça... Et puis, bon, d'une certaine manière, le problème de cette position-là, c'est qu'elle peut facilement être abusée. Je ne pense pas que ça devait être la position d'Hegel au départ, mais elle peut facilement être abusée par les dominants. Tu vois. Si, je ne sais pas, dans ce siècle, par exemple, la Chine conquiert le monde entier, pourra dire, ben voilà, c'était le sens de l'histoire que notre peuple domine tous les autres. Si quand la cellule dominera le monde entier, on pourra dire, ben voilà,
c'est facile quand on est à un point donné de l'histoire de regarder rétrospectivement ce qui s'est passé et lui donner un sens. C'est ça que j'entendais. Exactement. Par l'histoire est un point de vue, c'est parce que dans les livres d'histoire que j'ai pu lire, c'est on ne peut pas parler de tout puisqu'on n'était pas là, on ne connaît pas tout exhaustivement. On n'est pas Mifos Kadria derrière son PC en train de vérifier tous les peines mouches qui se sont passées. Ouais. Donc, on est forcé de choisir des éléments qui paraissent pertinents pour expliquer. Et du coup, à partir de là, il est compliqué d'avoir une vision. On n'est pas Dieu, il est compliqué d'avoir une vision exhaustive.
Alors justement, suivant le cadre de pensée...
C'est que, excuse-moi, je vends ma soupe, mais dans le sens, justement, c'est parce qu'on est Dieu qu'on n'en a pas, qu'on n'a pas de sens, qu'il n'y a pas de sens à l'histoire. Parce qu'il y a un moment donné où on a tellement tous les faits exhaustifs qu'en fait, on n'y trouve plus la signification. Et c'est justement le fait de se borner, de se mettre des œillères sur certaines choses qui nous font voir du sens là où il n'y en a pas forcément. Enfin bref.
Autopromo.
C'est de l'autopromo.
J'ai fait la même chose avec Monostatos tout à l'heure.
C'est par rapport à ce que...
Et alors justement, ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu dis, Fly, c'est que les cadres de pensée, suivant le cadre de pensée et la lecture que tu as, les événements historiques ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que pour Hegel, il y a cette idée que c'est souvent des grands hommes qui actent l'histoire. Hein, qui agissent pour la raison. Alors que justement, chez l'autre penseur de la fin de l'histoire, qui est Karl Marx, les grands hommes ne sont rien dans l'histoire. Ce qui est important, c'est la lutte des classes. C'est-à-dire l'idée que les moyens de production de biens, comme les biens qui nous entourent, changent dans le temps. Et qu'il y a à chaque fois des dominants et des dominés, puis des classes intermédiaires. Et que les dominés, au bout d'un moment, finissent par faire éclater le système de production dans lequel ils sont et renverser les dominants, devenir dominants à leur tour. Et puis, ça continue. Donc, il y a plusieurs... Il y a un communisme primitif, il y a l'esclavage, le système féodal... le système capitaliste, ensuite il y a la dictature prolétarienne.
Ce sont des époques qui se succèdent.
Qui se succèdent dans le temps. Donc là, à nouveau, il y a une pensée linéaire, tu vois, comme chez Hegel, comme chez les chrétiens, toujours cette pensée d'un...
Étape par étape.
Étape par étape.
C'est...
Alors, sincèrement, j'adore Marx. Je trouve qu'il y a tellement de concepts qui sont géniaux chez lui. La notion de matérialisme, ça permet de penser tellement de trucs en sociologie. La notion de domination, qui est une notion très mal comprise, est très très intéressante à plein de points de vue. Enfin, c'est super intéressant. Mais sincèrement, l'idée que l'histoire a un sens chez Marx, c'est vraiment ce que je trouve le plus problématique, le plus affreux. Ça a mené à beaucoup de justifications. Évidemment, on pense à l'auto-justification du stalinisme, de l'URSS, des choses comme ça. Et si seulement Marx n'avait pas été hegelien, n'avait pas été élève de Hegel, je pense que ça aurait changé l'histoire, sans mauvais jeu de mots. Parce que voilà, Marx, c'est vraiment un philosophe de l'émancipation, mais en même temps,
justement, tu peux tout justifier en disant bah, c'est le sens de l'histoire, ma bonne dame. Hein. Ah oui, oui, il y a des morts, mais il y a des violences, mais c'est le sens de l'histoire. Quoi.
Je reviens sur un point que tu as dit tout à l'heure, Fabien, qui est que en fonction de sa grille d'analyse, finalement, sur le monde, les événements historiques ne sont pas les mêmes. Ça, c'est vraiment très intéressant.
On revient sur le jeu de rôle.
Oui,
c'est pour ça que ça, c'est très intéressant parce qu'en jeu de rôle, si tu es hégélien. Alors c'est vrai, il y a beaucoup de pensées de l'histoire au 19e qui pensent les grands hommes. Tu sais, on dit Vercingétorix, Napoléon, le général de Gaulle.
Tu sais que c'était notre premier sujet à Rome et à moi en philo quand on faisait de l'histoire de la société.
Vous êtes trop contre là-dessus.
L'histoire est-elle l'histoire des grands hommes ?
Ouais, l'histoire
et moi j'avais fait un sujet troll où, où j'avais fait l'histoire n'est pas l'histoire des hommes ou des grands hommes, mais l'histoire des hommes grands. Pour me foutre de la gueule du sujet parce que je trouvais ça nul.
Mais en fait, c'est vachement intéressant.
Mais mine de rien, c'est une idée qui est. Enfin, on sait que par exemple Nicolas Sarkozy pour la campagne de 2007 a repris très volontairement l'image de Napoléon Bonaparte en s'identifiant à lui de plein de.
C'est pour ça qu'il a mis des talonnettes.
Pour l'idée de je suis l'homme providentiel, c'est moi qui vais redresser la France qui est dans le marasme, etc., etc. Et c'est une idée qu'on a souvent. Général de Gaulle, c'est ça, quoi. C'est lui qui a libéré la France. Ouais, il y a peut-être une dimension psychanalytique derrière. Et donc, pour revenir au jeu de rôle.
Ouais, alors, je voudrais juste ouvrir une autre parenthèse sur le sens de l'histoire avant qu'on en finisse. C'est juste que généralement aussi, on donne son sens à l'histoire pour des raisons qui sont politiques ou dans une société donnée, on a besoin de figures.
De se justifier.
On peut imaginer que la société des grands hommes, c'est aussi parce qu'on a envie de faire l'apanage de l'individualisme en disant regardez, en tant qu'individu, vous pouvez vous réaliser et devenir maître du monde.
Qui instrumentalise ça. Hein.
Et puis il fallait souder par l'école, ça a été aussi instrumentalisé dans la quatrième, troisième république.
Passé reçoit son sens, disait Paul Veyne, le passé reçoit rétroactivement son sens de l'avenir ou du présent. Je ne sais plus, mais en gros, l'idée, c'est que l'histoire est toujours faite par des hommes présents qui cherchent dans le passé des solutions. Pour valider certaines théories, certaines hypothèses, surtout certaines hypothèses et donc en faire des théories et certaines positions politiques.
Au 19e, il me semble qu'il y a une notion qui se développe dans la pensée américaine qui est la manifest destiny, c'est-à-dire la destinée manifeste au sens de destinée évidente. C'était évident que Dieu nous a donné ces terres pour les coloniser et qui justifie évidemment...
Les Indiens ne sont pas tout à fait d'accord non plus.
Voilà, exactement. Les Indiens nous disent que non, enfin ceux qui restent, les pauvres.
Natives.
Et qui justifie en fait, on a une destinée manifeste dans le monde qui effectivement justifie a posteriori des comportements qui par ailleurs pourraient être considérés comme affreux. Et juste pour terminer, mais promis, après on revient sur le philosophe qui moi me fait énormément de bien pour penser des contre-arguments de tout ça, c'est Albert Camus. L'homme révolté, c'est exactement ça. L'homme révolté, c'est un refus du communisme soviétique, ce qui lui a valu d'ailleurs plein d'ennemis parce qu'il sort ça en 51-52, il me semble, quelque chose comme ça. Et donc un moment où le communisme avait plutôt le communisme soviétique, hein, parce qu'on peut être communiste sans être soviétique, on peut être marxiste sans être léniniste. Où il pense justement en disant, il faut être tout le temps vigilant, il faut être tout le temps, c'est pas exactement le truc de Voltaire que t'aimes bien, il faut cultiver son jardin, mais s'il y a un côté, il faut agir en étant toujours à l'affût de la justice et toujours à remettre les choses en cause.
Pas se dire que tout est donné, mais c'est au contraire que tout est encore à construire.
Il y a un peu ça. Donc vraiment, en plus, l'homme révolté, ça se lit vraiment très bien. Je sais que c'est pas un philosophe très considéré, mais j'aime vraiment beaucoup.
On dit souvent que c'est le philosophe pour des lycéens, mais pourtant moi j'aime bien aussi La Peste, par exemple.
Mon préféré c'est La Chute. La Chute est vraiment incroyable. J'ai eu des frissons en le lisant. Enfin, lisez La Chute, c'est tellement bien.
Je pense qu'à tout âge, à tout âge dans ce genre de livre, c'est un petit peu comme Citadelle de Saint-Exupéry ou Le Petit Prince. Ouais. Et à tout âge, en fait, dans ce genre de livre, on peut retrouver des choses. D'accord, donc dire que c'est un philosophe pour lycéens, Oui, les lycéens, ils retrouveront certainement des choses, mais les adultes également. Et... Enfin, de toute façon, pour moi, ce n'est pas déconsidérer les choses que de considérer qu'elles sont pour les lycéens. Parce qu'après tout, je trouve que c'est très bien aussi les livres qui sont accessibles. Et qui sont...
Je n'ai pas dit que c'était ce que je pensais. Moi, j'aime beaucoup Albert Camus. Puis... Mais par contre, c'est de la critique souvent qu'on lit dans les livres.
Puis quand, on dit c'est un philosophe tellement bas comme critique. On lui dit, et quand on dit c'est une critique, si tu veux, c'est pensé comme quelque chose de péjoratif. Même
et,
si, bon.
Et bien.
Et puis Albert Camus était beau, était un dandy.
Tu nous fais du Nietzsche là. Il était beau donc.
Et il avait raison.
Non, du Socrate plutôt.
Il était beau donc il avait.
Il était beau donc il avait raison.
Ah ouais, mais je sais pas. Il est vachement attirant.
C'est Nietzsche disait ça. Nietzsche disait ça de Socrate. Il disait le meilleur contre-argument à la théorie socratique, c'est de lui dire t'es moche. C'est donc comme l'idée principale. Oui. Chez
Alors donc
Socrate,
pour revenir au jeu de rôle, ouais. Promis. En jeu de rôle, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand, ou même quand, dans l'Uchronie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est un événement historique, qu'est-ce qui fait vraiment changer l'histoire, tu vois?
C'est intéressant.
Si t'es PJ tue Napoléon Bonaparte ou Adolf Hitler avant leur carrière politique respective, est-ce que le monde aurait été tellement différent. Évidemment qu'il aurait été différent. Mais est-ce qu'il aurait été vraiment tellement différent ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où...
Il y aurait eu un autre...
Ouais, voilà. Est-ce qu'après le traité de Versailles, l'Allemagne n'avait pas envie de foutre sur la
de
gueule
De toute façon.
Et puis, pour parler comme un marxiste, est-ce que... voilà, il n'y avait pas un moment où la bourgeoisie en 1789 n'avait pas envie de renverser le pouvoir royal. Il n'y avait pas les moyens. Il l'aurait fait de toute façon, même si Louis XVI avait été plus compétent, même si... voilà.
Il y a un petit côté chaîne des fêtes Cicéron, en fait, où on essaye
c'est quoi,
de...
C'est quoi ouais.
La chaîne des fêtes de Cicéron. Alors, pour Cicéron, je vais un petit peu... rendre ça plus fun pour l'expliquer, parce qu'il l'explique de façon un peu chiante. En gros, l'histoire provient de faits qui se succèdent. Et en gros, on pourrait dire que si Napoléon il est tombé de son cheval à ce moment-là, parce qu'il y a une mouche qui a pété. C'est pas de la théorie du chaos, mais on n'en est pas loin dans la chaîne des faits.
Le fait que
un déterminisme qui peut venir
précis,
de l'Antiquité et qui fait remonter une chaîne de faits comme ça et qui va mener à un point précis qui va se passer quelque chose. Et ça a été largement montré que ce n'était pas bon comme façon de penser et que c'est très facilement contre-argumentable. Mais...
Voilà, donc, et en fait, ça pose un peu la question. Qu'est-ce qui fait vraiment changer l'histoire, tu vois ? Si, par exemple, si on avait...
Un pain de mouche, on t'a dit. T'as dit que c'était un pain de mouche.
C'est pas l'exemple de Cicéron. Hein,
oui, mais c'est des trucs à la. Enfin, il y a une phrase de Pascal, c'est si le nez de Cléopâtre avait été plus court, oui. L'histoire en aurait été changée. Ouais. Qui est aussi une phrase très souvent citée par les uchronistes. Oui, je chez Pascal, quand il l'utilise, j'imagine que c'est pour montrer le fait que l'humanité est très vaine d'une certaine manière, que ça tient à quelque chose de. Qu'en fait, que justement, c'est un contre-argument à l'idée que l'histoire a un sens, quoi. C'est dire, finalement, voilà, les choses pourraient être complètement différentes si un détail trivial de l'histoire avait été différent. Et justement, voilà, si vous réfléchissez à l'Uchronie, puis à quel moment vos joueurs peuvent vraiment faire changer l'histoire en profondeur, quoi. Qu'est-ce que c'est vraiment un autre exemple. Imaginons que les terroristes qui ont fait les attentats du 11 septembre, je sais pas, ils soient morts dans un accident de voiture bête à côté d'une autoroute dans le Nebraska, enfin bon, qu'on les ait enfin que est-ce que pour autant tous les événements qui avaient préparé ça, c'est-à-dire l'impérialisme américain sur le Moyen-Orient, les précédentes guerres en Afghanistan, les guerres d'Irak, auraient pas d'une façon ou d'une autre fait péter un peu d'une manière moins spectaculaire. Et finalement, si on répond oui à cette question, ça veut dire qu'en fait, le 11 septembre n'est pas un événement historique, parce que on n'a pas besoin de lui pour que l'histoire change. l'histoire a changé par plein de... Enfin, c'est modelé, plus exactement, à plein de moments précédents qui ont créé l'anti-américanisme, qui ont créé certaines formes de rébellion, de combat.
C'est là où on peut dire que l'Uchronie, c'est avant tout une expérience de pensée, au final. Parce que dans cette expérience de pensée, on estime, on imagine qu'un point va pouvoir changer le reste. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, c'est vraiment une expérience de pensée. Qu'est-ce qui se serait passé si ? Parce qu'au final, l'Uchroniste ne pense pas forcément que parce que quelque chose... Ce n'est pas une révolution à un point P, il se passe ça et pam, il y a tout qui découle. On peut aussi considérer que l'histoire est le résultat d'une somme de choses et que même si la chose dont on parle n'avait pas existé, il y aurait eu d'autres choses qui auraient créé la même situation. L'Uchronie est avant tout une expérience de pensée pour essayer d'avoir un propos. Quand Philippe K. Dick imagine que l'Allemagne a gagné, il a un propos derrière pour montrer qu'il y a quand même des similitudes entre ce qui vit aux États-Unis et ce qui aurait pu se passer si
alors on va, s'ils on avaient va revenir sur, sur Philippe K. Dick qui est vraiment un super exemple. Bien. Juste avant ça, je regarde mon petit plan. Justement, je voudrais raccrocher un autre point de mon plan à ce que tu disais. L'Uchronie d'une certaine manière est une expérience de pensée, mais qui peut être à la fois émancipatrice et à la fois comment dire, oppressante d'une certaine façon. Elle est émancipatrice dans le sens où ça permet de se libérer de l'idée que le monde doit être comme ça, quoi. On doit vivre dans le capitalisme, on doit vivre dans la démocratie, on doit vivre, on doit élire tel président, on doit, enfin bon. Et donc de se dire, ben non, le monde pourrait être très différent si on avait pensé les choses, enfin si quelque chose d'absurde s'était passé différemment il y a longtemps. Et en même temps, donc ça, c'est la dimension émancipatrice. Et en même temps, il y a quand même une dimension qui me gêne aussi un peu, qui est de dire qu'il n'y aurait qu'un seul événement qui aurait pu tout faire basculer. C'est sans doute pas entièrement vrai non plus, quoi. C'est-à-dire que là, on revient un peu au débat entre Hegel et Marx. Hein. C'est-à-dire que est-ce que c'est tout un vaste système qui va globalement vers un certain point, ou est-ce qu'il y a vraiment des événements historiques très ponctuels, très précis?
Je pense que pour reprendre ton exemple du 11 septembre, même si on imagine que le 11 septembre n'a pas eu lieu, il y a eu tellement de choses qui se sont passées avant, qui remontent même à la guerre froide, qui remontent même avant la guerre froide, qui ont fait que toute la situation s'est gangrénée, qui aurait peut-être certainement eu un autre 11 septembre, qui aurait par exemple été le 24 octobre, voilà. Qui fait que du coup, peut-être les choses ne se seraient pas passées de cette manière-là, mais quand même, ça aurait ressemblé beaucoup.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement ça la question.
Ça aurait été le 12 Brumaire, je pense. Mais bon, toujours est-il que...
Ma maman, qui est historienne, nous disait parfois que tout le XXe siècle était dans la dépêche d'Ems. La dépêche d'Ems, c'est une dépêche diplomatique que la Prusse, en 1870, a envoyée à Napoléon Bonaparte. Ah oui. Ils ont manipulé Napoléon Bonaparte pour lui faire croire que, l'ambassadeur de France avait été très mal accueilli en Prusse, parce que la Prusse avait besoin de s'unir autour d'une guerre, et que ça a été la guerre de 1870.
En gros, ils ont utilisé le Gorafi pour
c'est ça, ouais, tu peux voir les choses comme ça, pour le provoquer. Donc, que ça leur permet, l'Allemagne, donc, qui s'est constituée à ce moment-là en fédération, a créé donc s'est unifié, a gagné la guerre, que ça a créé un sentiment français anti-allemand revanchard qui s'est manifesté en 1914. Qui pour reprendre l'Alsace.
Tout part d'un hoax, en fait.
Ouais, c'est ça. Et ensuite, à cause de ça, on a eu le traité de Versailles, la crise de 1929, qui a amené ensuite Hitler au pouvoir, qui a amené la Seconde Guerre mondiale, qui a amené la guerre froide.
Je trouve qu'il y a une leçon à tirer de ça.
Ouais.
C'est-à-dire que de n'importe quel fait historique, finalement, elle aurait pu dire le fait que la fesse droite de Napoléon Bonaparte soit rose, elle aurait pu choisir n'importe quoi.
Ou même s'il n'y avait pas eu la révolution, il n'y aurait pas eu Napoléon, donc il y aurait, tu vois.
C'est pareil.
S'il n'avait pas eu les hémorroïdes, il aurait été moins désagréable. Et puis,
ça, je trouve ça intéressant dans le cadre de la pensée du complot aussi. Parce que c'est en fait c'est un bon contre-argument
en fait,
de certaines pensées du complot.
C'est la pensée du la théorie du chaos, c'est ça, l'idée que un tout petit événement peut avoir des
non,
conséquences.
Non,
parce que
souvent
la théorie du chaos est très
n'importe...
mal comprise parce qu'on la voit comme une chaîne de faits, alors qu'en fait dans la théorie du chaos, les choses sont pas forcément reliées.
Voilà, c'est ça.
C'est, il peut se passer quelque chose à un endroit.
Ouais.
Si ça n'avait pas eu lieu,
les choses
ne seraient pas passées comme ça, mais ça ne veut pas pour ça qu'elles sont pas liées. Fait qu'elles sont liées. Il n'y a pas de notion de chaîne de causalité dans la
théorie du
chaos. Et souvent, les gens la comprennent comme une chaîne de causalité. Ils
font avec le papillon de Lao Tzu, le papillon qui bat des ailes à Pékin et qui
peut apporter la pluie à New York.
Mais moi j'y comprends pas grand chose à ça. Moi, tout ce que je voulais dire, c'est que de n'importe quel fait de l'histoire, tu parles de n'importe quel fait, tu peux à peu près réécrire l'histoire à partir de ce fait-là et dire que c'est grâce à ce fait-là.
Ouais, après, c'est
et ça nous enseigne plus ou moins crédible. Ça nous enseigne quelque chose sur notre manière de penser, en fait.
D'accord.
Et justement, c'est là où je voulais en venir avec ce sujet de l'Uchronie. Moi, depuis tout à l'heure, je vous écoute. Et moi, en fait, ce qui me fait. En fait, l'Uchronie, c'est un peu. Comment dire ? Le genre, la méthode de pensée par excellence de tout individu. De tout être humain, en fait. L'être humain pense toujours sur le mode « et si ». Et donc, pour moi, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure quand je te disais « Uchronie, genre rôliste, en fait, par excellence ». Parce qu'en fait, je pense que si l'Uchronie n'a pas été tant traitée que ça en jeu de rôle, c'est parce qu'en fait, elle l'est toujours traitée.
Ah oui. Oui, parce que même dans un scénario hyper dirigiste, tu dis toujours «
que veulent dire,
si
exactement,
il tue tel personnage ?»
Que veulent dire les gens quand ils te disent, par exemple, autour d'une table de jeu de rôle, on apprend à se connaître bien mieux qu'en discutant de la pluie du beau temps ou qu'en regardant un film ensemble. C'est ça qu'ils veulent dire. Ils veulent dire parce que le « et si » permet la façon, dis-moi la façon dont tu formules du « et si », dis-moi finalement, faisons ensemble une expérience du pensée et je te dirai qui tu es. Parce qu'à travers une expérience de pensée, on voit bien que, et là ça me fait penser, que ça reflète complètement ton intériorité. Et là ça me fait penser immédiatement au podcast de Fatal, le podcast qu'on a enregistré sur Fatal, dans lequel à travers un what if, c'est-à-dire et si le monde était organisé comme moi, être délirant, je me l'imagine, eh bien regardez, ce serait tellement plus objectif. Et en fait, qu'est-ce qui apparaît en transparence ? La subjectivité complète de l'auteur. Donc dis-moi, lire une uchronie écrite par Fabien Hindwein, ce serait en un sens, voir absolument bien analyser absolument la façon dont tu penses, le sens de l'histoire, qu'est-ce qui est qui est possible.
Ce que sous-entends là derrière. Ah ben, en lien, ce que tu sous-entends là derrière, en
l'Uchronie
lien avec
nous en apprend sur nous-mêmes.
De Fatal, c'est que
pas sur l'histoire.
Quand on est uchroniste, on essaye de penser de façon objective, c'est-à-dire que
Et on se piège soi-même.
Hein, évidemment, on se révèle soi-même parce que le plus souvent, les gens qui essayent d'être parfaitement objectifs en réalité sont parfaitement subjectifs.
Laissent apparaître leur subjectivité.
Et que c'est ça qui est.
Absolument. C'est ça que je veux dire.
J'ai lu un magazine Histoire il y a quelques temps qui avait une petite réflexion là-dessus. Alors, je suis incapable de retrouver à quel moment, donc tant pis, mais qui disait qu'en gros, en histoire, il y avait des événements qui s'étaient passés et que ça, bon, bah, c'était généralement sûr, notamment sur l'histoire assez moderne, on sait qu'il y a des choses qui se sont passées et que ce qui est plus compliqué, c'est d'essayer de les relier entre eux et d'essayer de savoir s'il y a des conséquences. Ouais. Donc, on sait qu'il y a des choses qui se sont passées, on sait qu'il y a des choses qui n'étaient pas forcément bien, mais de là à dire d'où viennent ces événements et qu'est-ce qu'ils apportent après, ça, c'est plus compliqué. Et ça, je suis assez d'accord avec cette vision-là de l'histoire, c'est-à-dire que objectivement, scientifiquement, il y a des événements qui ont eu lieu. C'est-à-dire, par exemple, il y a eu la déportation des Juifs et les Juifs, ils ont vraiment été tués dans des camps de concentration, ça c'est sûr. Par contre, essayer de comprendre exactement les événements qui ont mené à ça et les événements qui en découlent, ça, c'est plus compliqué. Essayer de faire la chaîne, en fait.
La chaîne causale.
C'est ça qui est
expliquer,
dur, en fait.
Expliquer, en fait.
C'est
ce qu'on appelle expliquer.
Et c'est là où, en fait, le rôle de l'historien est compliqué. C'est pour ça que je parlais de point de vue tout à l'heure. Parce qu'au final, selon le point de vue d'où tu te places, il y a des événements qui sont sûrs. Mais de là à dire que tel événement amène à d'autres événements, ça, c'est déjà beaucoup plus compliqué.
C'est le problème de l'explication.
En sciences sociales, on a l'idée que la seule méthode qui permette vraiment de montrer l'existence d'un lien de causalité, c'est l'expérience. L'expérience, t'as un groupe test et un groupe témoin. Le groupe témoin, tu lui fais rien. Et le groupe test, tu lui fais vivre quelque chose. Et tu regardes ensuite quelle est la différence entre les deux à un temps T plus 1. Tu vois ? Donc par exemple, si tu fais peur au groupe test et ensuite tu... tu examines, je sais pas, leur capacité cognitive, hein, capacité à résoudre des problèmes, et tu montres que, ben voilà, je sais pas, ils ont moins de capacité cognitive que le groupe témoin. Tu peux dire, il y a un lien de causalité entre le fait de faire peur à quelqu'un et le fait de des capacités cognitives. Et en fait, ça rejoint exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que finalement dans l'histoire, et ben on n'a pas de groupe témoin, quoi. On n'a pas d'histoire parallèle où on pourrait comparer les faits et se dire qu'est-ce qui s'est passé. Alors évidemment, on repense beaucoup à l'ombre-monde et à Sens. Ça, c'est vraiment des.
Mais en fait, moi, ce que, qui c'est la problématique de ce podcast est très proche de celle qui est soulevée par Sens en règle générale. Parce que quand tu veux faire un jeu de rôle philosophique et quand tu veux faire parler les gens de leur thèse philosophique, la meilleure manière, c'est de provoquer justement des what if. Qu'est-ce qui se serait passé si ? Et là, tu écoutes la personne. Et quand tu vois, mais ça serait forcément passé pas ça, parce que ils vont te dire, parce que ça, tu vois, c'est nécessaire, tu vois.
Ça fait partie
pour
de la
moi, c'est nécessaire, tu vois. C'est, on peut pas imaginer un monde dans lequel, par exemple, ça, on arrive souvent à des débats sur la violence. Les gens qui disent que, par exemple, t'as deux politiciens qui discutent et ils disent, mais vous êtes naïf. Sous-entendu, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes naïf, par exemple, vous êtes angéliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par essence, cette personne postule que les gens sont, par exemple, violents, si on parle de violence dans les banlieues.
Vous ne partagez pas la même objectivité que moi.
Voilà, c'est ça. Donc, on arrive comme ça à des...
C'est pour ça que je pense que l'Uchronie doit forcément aller avec certains propos quand on le...
Voilà. Alors, voilà.
Ah,
c'est
génial.
Ça qui est intéressant.
Je suis voilà. D'accord avec Fly.
Ah
mais justement.
Deux fois dans le podcast, c'est parfait.
Alors justement, pour revenir au maître du Haut-Château, il faut vraiment qu'on parle de cette œuvre. On ne peut pas parler du chronique sans parler de ça. Donc c'est un livre de Philip K. Dick, qui est un écrivain de science-fiction entre les années 50-60 et 60-70, grosso modo, un cheval près. Et le maître du Haut-Château donc, nous parle d'un univers dans lequel... En 1947, les forces de l'Axe ont gagné. Et le monde a été divisé en deux, avec un côté du globe qui est occupé par l'Allemagne nazie et l'autre côté du globe qui est occupé par le Japon impérialiste. Avec une ligne qui coupe les États-Unis en deux, en fait. Évidemment, ça renvoie à la guerre froide, hein, avec d'un côté les États-Unis et de l'autre côté l'URSS qui se sont partagés un peu le globe. Et alors il y a des trucs qui sont en fait ce qui est par rapport à cette histoire de propos là où je suis entièrement d'accord avec toi c'est que l'Uchronie toute seule me semble rarement intéressante
en fait elle n'est pas possible pour moi elle n'est pas possible l'Uchronie toute seule n'est pas possible
oui voilà exactement c'est à dire que l'Uchronie dit nécessairement quelque chose d'autre
absolument
c'est ça et ce quelque chose d'autre peut être très très très, très différent
parce qu'elle pointe du doigt quelque chose à montrer.
Tout à fait. Et nécessairement, elle émane d'une subjectivité de quelqu'un qui dit ça, c'était important et ça, ça aurait pu se passer différemment. Je vous parlerai, j'ai ma petite uchronie aussi à moi, je pourrais vous en parler après. Mais sur le maître du Haut-Château, par exemple, un truc que je trouve génial dans le maître du Haut-Château, c'est que un des personnages vend des objets de la culture traditionnelle américaine. Et il y a des Japonais des clients japonais riches qui viennent le voir. Puis donc lui a des réflexions du genre. Ah oui, mais c'était évident que c'était eux qui devaient gagner parce que c'est une race qui est faite pour dominer le monde. Leur culture est tellement culture du samouraï. Ouais. C'est normal. Ils devaient gagner quoi. C'était pas possible autrement. Et ce qui est génial, c'est que ça renverse l'exotisme. C'est-à-dire que ces Japonais viennent acheter des montres Mickey, des revolvers de la guerre de sécession en se disant ah c'est une culture qui est en train de disparaître mais c'est une culture qui est tellement importante qui est tellement forte exactement comme ce qu'on a toujours un peu aujourd'hui hein, cette fascination pour le Japon en se disant ah oui oh là là cette culture incroyable entre modernité et tradition n'est-ce pas enfin tous ces poncifs qui moi me mettent parfois un peu mal à l'aise parce qu'on est à la limite des poncifs un peu colonialistes racistes quoi d'admirer ce qu'on a dégommé. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment un truc... c'est un propos qui naît de l'Uchronie et qui ne peut naître que de l'Uchronie parce que justement, tu as ce renversement. Et je pense... En fait, je pense que... Bon, évidemment, comme toujours chez Philip K. Dick, le propos le plus fort, c'est jouer avec la notion de réalité. C'est quoi, là? Qu'est-ce qui est réel?
Réel. Mais c'est la même chose. Enfin,
Oui, bien sûr. Je vous conseille à ce sujet-là un très bon épisode sur YouTube de la Brigade du Livre consacré à Philippe K. Dick, qui vous permettra de vous familiariser rapidement avec Philippe K. Dick. Et en effet, il parle des problèmes de Philippe K. Dick avec la notion de réalité. Au final, tous ces livres parlent un peu de ça. Quoi. Ouais.
Et notamment, à l'intérieur,
ce qu'on appelle le réel, c'est ce qui est nécessaire.
Et à l'intérieur de et à l'intérieur du maître du donc le maître du haut château, en fait, le titre fait référence à un type qui est une espèce plus ou moins l'avatar de Philippe K. Dick dans cet univers, qui est dans un manoir isolé et qui lui a écrit un livre qui est interdit, qui s'appelle La sauterelle pèse lourd. La sauterelle pèse lourd, je suis désolé. et qui est une mise en abîme, puisque dans La sauterelle pèse lourd, l'auteur dans cet
imagine
que les alliés ont gagné. Mais ce qui est génial, c'est que dans La sauterelle pèse lourd, en fait, ça ne s'est pas passé comme ça s'est passé pour nous. Et donc, tu as une espèce de d'Uchronie à l'intérieur de l'Uchronie. Je ne sais plus comment ça se passe exactement. Mais, bon.
C'est un livre qui se passe sous le manteau et qui commence à faire changer les choses parce qu'on espère que ça pourrait se passer comme ça. Et ce livre d'Uchronie, du coup, va déclencher un événement historique qui va faire que l'Uchronie est rejointe par la réalité. C'est ce qui est sous-entendu.
Qu'est-ce que ça ferait changer à son tour le... Ok, ouais, d'accord.
On voit très bien le souhait de Philippe K. Dick de voir. Il est déçu, en fait, de ce que ça a donné.
Ah, tu l'interprètes comme ça ?
Ah, moi, je l'interprète comme ça, ouais.
Moi, je le lis à un niveau, un cran peut-être un peu plus direct, qui est simplement que. Ça fait sauter tout le temps le sentiment de réalité. Tu vois, tu te dis, ouais, mais mince, mais tu vois, est-ce que je suis vraiment dans un monde est-ce que le monde dans lequel je suis est vraiment un monde réel, tu vois, est-ce que véritablement les alliés ont gagné, ou est-ce que je suis pas comme un... Et puis il y a un des personnages qui finit par se perdre dans la réalité réelle, ouais. Dans notre réalité, mmh. Et ça, c'est intéressant. À nouveau, là, c'est pour ça que le Maître du Haut Château est tellement, un livre tellement admiré en Uchronie, parce que justement, il utilise vraiment à fond les potentialités de l'Uchronie, quoi, d'interroger la réalité. Voilà. De se dire, le monde aurait pu être différent, et si ça se trouve.
C'est Inception, mais en mode Uchronique, quoi.
Ouais. Si tu veux, ouais.
C'est pas le rêve dans le rêve dans le rêve, c'est la réalité dans la réalité dans la réalité dans la réalité.
Et ça, ça rend. Voilà, donc tout ça pour dire que, c'est un peu le propos qu'on a développé depuis le début. Créateur de jeux de rôle, si vous créez une uchronie, faites attention à ce que cette uchronie, évidemment, il y a une part de s'amuser hein, quand on fait une uchronie. Moi, j'ai écrit des textes comme ça pour moi, mais c'était juste pour le plaisir de s'imaginer le truc. Mais il y a aussi un truc de qu'est-ce que ça dit sur moi.
Ouais, c'est clair, il faut faire très attention.
Quelle chose qu'on écrit au final.
Oui, mais dans l'Uchronie, d'une certaine manière, l'Uchronie, c'est vraiment. Ouais. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là où d'un seul coup, tu es trahi par toi-même. Quoi.
Moi, j'ai tendance à penser qu'on est transparent de toute façon. C'est-à-dire, moi, je vais au-delà, j'en parle souvent avec Fly, de ça, je pense qu'on ne peut pas mentir. C'est-à-dire que moi, les auditeurs, je sais qu'ils me connaissent parfaitement. Dans mes défauts, ils savent quand je dis des conneries. J'en suis sûr. Je pense qu'on est complètement transparent. À la fois dans ce qu'on dit, mais aussi dans ce qu'on écrit, et aussi dans ce qu'on dit, je pense.
Le texte auquel je faisais référence, et c'est un truc que j'ai écrit pour me faire plaisir. Donc ça n'a pas de vocation à exister en dehors de ça. Mais je me disais, et si l'opinion publique américaine en 1940 avait été beaucoup moins, enfin avait été perçue ou réellement, on s'en fout, comme beaucoup plus autoritaire et prête à beaucoup plus à la Trump, quoi, d'une certaine manière. Et que en fait les Américains aient rasé à coups de bombes l'Europe. Un truc qui m'épate, c'est pourquoi les Américains n'ont pas balancé des bombes nucléaires partout dans le monde quand ils étaient les seuls à l'avoir, quoi. Allez, hop, une sur Moscou, comme ça ils arrêtent de nous emmerder. Et puis chaque fois qu'il y a quelqu'un qui les menace vaguement, de réagir vraiment à fond, quoi. Ouais. Parce que l'impérialisme américain est quelque chose qui à la fois me fascine et me terrifie. Par exemple, dans cet univers-là, le plan Morgenthau a été mis en place. Le plan Morgenthau, c'est extraordinaire. C'est l'idée que pour en finir définitivement avec la menace germanique, on allait
transformer le... On allait raser toutes les usines de... d'Allemagne. On allait détruire, on allait remplir d'eau toutes leurs mines, les noyer, et faire de l'Allemagne uniquement un immense grenier à blé de l'Europe. Et qu'il ne ferait que faire pousser du blé, donc il serait virtuellement inoffensif, quoi. Enfin... et donc finalement ça n'a pas été appliqué parce qu'il y a des gens qui se sont enfin parce que la le personne qui était favorable à ça est morte aussi, enfin bon il y a des choses assez absurdes, mais ça c'est un truc qui est terrifiant. Et tu peux imaginer tu peux imaginer un monde dans lequel les États-Unis sont beaucoup plus agressifs, en fait encore plus agressifs d'une certaine manière qu'ils l'ont été, un monde dans lequel les droits civiques ont pas eu lieu et puis c'est l'apartheid généralisé dans le monde. Un monde
enfin, c'est peut-être parce que tout ça n'a pas eu lieu parce que les États-Unis n'existent pas en fait, au sens où l'entité telle que tu la penses n'existe pas. Il y a des collectifs, c'est une collectivité devenue toujours un parlement, toujours un président soumis à des contraintes, son congrès, plein de différents.
Mais tout ça à nouveau pour me ça révèle quelque chose.
Tu viens de te trahir, non?
Oui, très bien. Justement, si je révèle si je parle de cette uchronie, c'est justement pour me trahir, pour montrer que j'ai quand même des connaissances limitées dans le système.
Finalement, on parle jamais mieux de soi-même qu'en parlant des autres, en fait.
Ah oui, ça c'est clair.
Et souvent avec Flavie que les couples ont besoin de se retrouver à deux et puis de bitcher un peu sur les autres couples, de dire ah bah eux ce qu'ils font, etc. Et qu'en fait ça sert, en fait je pense que ça sert à se retrouver soi-même. Mmh. C'est-à-dire à se dire, puisque si on est d'accord sur sur quoi on bitch, entre guillemets, ça veut dire qu'on est d'accord entre nous, en fait. S'aimer, c'est haïr le même ennemi, pour reprendre la bonne phrase de Sartre. Mais c'est surtout pour se retrouver soi-même. Et en fait, c'est pas vraiment pour dire du mal des autres que pour dire du bien de soi. Mais comme on est trop modeste pour dire t'as vu comme on est bon, t'as vu comme on est fort, on préfère dire t'as vu comme les autres sont pas bons.
Ça c'est votre fonctionnement de couple.
Tu peux le généraliser au milieu de jeux de rôle, puisque tout le monde maintenant aujourd'hui sur Facebook se vante de bitcher sur les auteurs et sur les éditeurs et sur machin truc.
Bah, c'est peut-être effectivement une manière de se retrouver.
C'est une manière de se retrouver soi-même, en fait.
Je pense aussi qu'on repère toujours plus facilement les défauts chez les autres, puisque généralement on repère les défauts qu'on a soi-même.
La paille et la poutre.
Et
c'est ça, exactement.
Et que du coup, parler des défauts, c'est plus facile parce qu'on connaît, ses défauts, parce qu'on n'est pas, comment je pourrais dire, on n'est pas dans une société qui permet de se sentir à l'aise dans ses baskets, de se sentir bien dans sa peau. On a donc toujours plus tendance à voir les défauts que les qualités que l'on possède.
Bienvenue en France, pays du pessimisme et du fromage. Alors donc, sur l'Uchronie,
à ce point de vue, lisez la pédagogie positive de Madame Hakoun et de Madame Payot. Voilà.
Est-ce que l'Uchronie, finalement, c'est pas le genre par excellence qui donne du sens à, c'est-à-dire qui donne du sens à un événement, qui donne du sens à l'histoire, qui donne du sens. Enfin, voilà. À partir du moment où tu supposes que un événement, s'il ne s'était pas passé, les choses auraient été différentes, tu trahis le sens que tu donnes toujours à l'événement, au monde, à ce qui est nécessaire et à ce qui est juste possible. Et ça, encore une fois, j'invite tous les auditeurs à s'interroger sur ce qu'ils pensent être nécessaire et ce qu'ils pensent être seulement possible. Et quand on fait cet effort-là, déjà, on découvre des choses sur soi qui sont extraordinaires.
J'aimerais aussi, alors maintenant ça, ce point-là n'engage que moi. Je pense qu'il y a une raison si les uchronies qu'on connaît sont souvent des uchronies qui ne sont pas vraiment des uchronies du type steampunk ou ce genre de choses. C'est-à-dire que le what if, le et si, a un truc un peu grisant. C'est-à-dire que quand on commence à changer une réalité, on a envie d'aller toujours plus loin. Et du coup, pourquoi pas rajouter de la magie? Et pourquoi est-ce que l'électricité...
Je veux des elfes, je veux des dinosaures,
ouais,
je veux...
Oui, et puis les méga
apocalyptiques.
C'est la boîte à JDR. Voilà.
Et au final, je pense que quand on commence à jouer avec l'histoire, on a envie toujours d'aller plus loin. Et comme l'imagination... c'est un truc un peu grisant, on a toujours envie de voir ce qui se serait passé ci, ce qui se serait passé ci. Et je pense que c'est pour ça aussi que les uchronies qu'on connaît sont très souvent liées avec de la magie ou avec des trucs un peu foufou aussi, parce qu'on a envie de jouer avec cette nouvelle
réalité.
C'est
vrai que d'une certaine manière, l'uchronie demande une certaine rigueur chiante et pas très marrante, mais qui évidemment... on pourrait résumer ce podcast en disant l'Uchronie, ok, on a l'impression que, c'est, que ça demande une rigueur chiante d'historien, mais en réalité, ça nous permet de nous observer nous-mêmes ou de comprendre des choses sur nous-mêmes, ce qui nous semble important, sur nos compréhensions, nos incompréhensions de, dans
et
l'histoire.
Il faut, et c'est nécessaire de bien comprendre ça, parce que si on dit « mais non, on peut faire de l'Uchronie de façon totalement objective, etc. », ce genre d'Uchronie, en fait, l'Uchronie idéale, j'ai envie de dire, est impossible. Oui. Impossible.
De la même façon parce que l'histoire idéale ne
et là,
l'est pas.
Et là, on va revenir au présupposé, enfin, au préjugé que j'ai et que Fabien décrivait au tout début de ce podcast. Pour moi, à partir du moment où on pense un monde possible, n'empêche qu'on importe dans ce monde possible des structures, des possibilités combinatoires aux objets. Par exemple, si je parle de Lego en ex-union, enfin dans l'ex-URSS, par exemple, si je parle de... Bah, je garde, le Lego, il garde ses possibilités combinatoires.
La
brique de Lego.
Je
me disais, qu'est-ce que ça a à voir avec...
Non, mais si, parce que ça veut dire que la brique de Lego, elle garde sa possibilité de se combiner avec d'autres briques de Lego, etc. Et donc, on importe la chaise. Alors, je dis, il y a une chaise posée derrière cette personne. J'importe dans le monde possible les possibilités combinatoires de la chaise.
Ce que tu es en train de dire, c'est que pour toi, il y a... La logique est la métaphysique de...
Mais c'est
de
ça, c'est pour ça que je te dis, je reviens...
Imaginez un monde où il n'y aurait pas de chaise, où la chaise n'aurait pas été créée.
Bon, en réalité, si on revient sur cette histoire de métaphysique, ça peut être après des positions de travail, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand je fais de la socio...
Finir ce que je voulais dire, c'est juste dire que c'est du coup, pour moi, l'Uchronie est impossible, parce que pour pouvoir faire une Uchronie, il faudrait pouvoir se départir des possibilités combinatoires qu'on attribue aux objets dans le monde physique. Eh ben, bon courage, les gars. C'est-à-dire qu'il faudrait penser un monde qui n'existe pas. Il faudrait penser un monde impensable pour pouvoir faire une Uchronie réelle. Parce qu'on ne peut pas... En fait, on vit dans le monde où le 11 septembre a eu lieu. Qu'on le veuille ou non, ça a eu lieu dans notre monde, en un sens. Et donc, pour faire une Uchronie, il faudrait être capable de penser un monde qui n'existe pas et qui n'a jamais existé. Et ça, pour moi, c'est impossible.
Donc là, ce que tu es en train de
défendre... L'Uchronie idéale est impossible.
Attends, je veux juste comprendre ce que tu es en train de dire. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu es en train de défendre ton point de vue que la logique fait partie de la métaphysique, c'est ça ? Je ne comprends pas exactement ce que tu es en train de dire.
Mon point de vue, c'est de dire que la personne qui voudrait faire une Uchronie, dans le sens vraiment scientifique du terme, Miphos Kadria, par exemple, tu vois, je veux dire, qui a son ordinateur, etc., c'est impossible. Parce que pour faire une. Aujourd'hui, en l'état actuel de notre langage, pour pouvoir le faire, il faudrait que nos mots aient un sens différent de celui qu'il est maintenant. Enfin, la chaise dans le monde possible dans lequel le 11 septembre n'a pas eu lieu n'a pas la même signification dans lequel ça paraît très bizarre. Mais par exemple, si on prend cette chaise qui est ici, elle n'a pas la même signification si le 11 septembre a eu lieu ou pas, ne serait-ce que parce que cette chaise a vécu des faits dans lesquels des gens se sont assis dessus qui ont vécu le 11 septembre.
C'est un peu abstrait pour moi, la chaise.
Je pense la globalité de l'histoire.
Mais oui, tout à fait. Mais c'est pas ça. Ce que je dis, c'est que l'Uchronie est impossible. L'Uchronie, telle qu'on l'a définie comme style littéraire, est strictement impossible.
Mais on est d'accord avec ça, parce que c'est ce qu'on a dit quand on a dit qu'avec l'histoire, il était impossible.
Je n'ai jamais dit que je disais
complètement.
Je ne fais qu'en compléter ce que vous avez déjà dit. Je ne dis pas que c'est pas ce que vous avez dit. Au contraire, vous l'avez dit. Vous avez dit toute Uchronie est finalement quelque chose qui révèle
ce
des choses du monde.
Ce que j'entends dire, c'est que l'Uchronie objective est impossible.
C'est ça. L'Uchronie objective est impossible.
Mais personnellement, j'ai jamais prétendu parler d'Uchronie objective.
Mais je ne sais pas pourquoi vous pensez que je pense contre vous là. Au contraire, je porte de l'eau à votre moulin. En fait.
J'ai l'impression que tu parles d'un truc dont on n'a jamais parlé, qui n'existe pas, qui justement est l'Uchronie objective.
Non, mais je pense qu'il y a des. En fait, je pense que quand on entend Uchronie, certaines personnes prétendent... Regarde Zola, par exemple. Zola, quand il écrit son introduction au naturalisme, il pense qu'il va vraiment, mais vraiment, pouvoir créer un ouvrage qui sera ensuite utilisable par des historiens, des scientifiques. Il en est convaincu. C'est visible, quoi. Il en est sûr. Résultat, la mine, ça devient un monstre béant. Les nuages, des dinosaures, des dragons qui volent dans le ciel et cavalent ces gentils socialistes contre les méchants patrons. Enfin, je veux dire, il se rend pas compte, en fait, tu vois. Mais tout ça pour dire que le.
Oui.
Ce que vous avez, tout ça pour ajouter.
Ce vers quoi
ce
tu reviens, c'est cette idée à nouveau que quand quelqu'un essaye d'être objectif, il ne fait que révéler sa propre subjectivité.
C'est ça. Toute uchronie part d'un point de départ,
Et ce point de départ, c'est un être humain. C'est une idée aussi qu'on a beaucoup en...
Toutes les structures dont il a hérité.
C'est marrant que tu parles de Zola et du réalisme, parce que ça fait partie des fondements aussi de beaucoup de méthodes de sociaux. Et en général, en sociaux, quand tu as des méthodes interprétativistes, c'est-à-dire justement où tu essayes de décrire le monde et de comprendre ce que les individus mettent comme sens dans le monde, très souvent, tu te décris aussi toi comme chercheur. Donc, moi, dans ma thèse, je dis, ben voilà, je suis un homme blanc, hétéro, j'ai telles origines, etc. Et ça influe comme ça et comme ça mon regard.
Bien sûr. Et ça, c'est très important. Alors, et juste là où je voulais en venir, c'est juste dire, c'est pas parce que quelque chose est idéalement impossible que ce n'est pas intéressant d'en faire par ailleurs. Mmh. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on arrête très très souvent des recherches, des labos, des pensées en disant, non, mais ce que tu dis est impossible. Oui, mais c'est pas une raison pour ne pas le faire. Mais justement, c'est impossible. Mais justement, allons-y, faisons-le. Parce que c'est justement en essayant...
Le voyage est plus intéressant que la destination.
Voilà, c'est ça.
Et le voyage peut apporter beaucoup de choses.
Ce que je voulais dire. je suis désolé si je n'ai pas apparu comme si je pensais contre vous, parce qu'au contraire, je pensais contre vous.
Mais
je
n'arrivais pas à...
Tout contre.
C'est peut-être moi qui... Mais moi, je n'arrivais même pas à penser la possibilité qu'on puisse imaginer qu'une uchronie soit objective. D'une certaine
façon. Oui, dans un sens, pour toi, c'est évident. Mais moi, je
la
crois pas.
La subjectivité des êtres humains est toujours partout.
Ça, Sens le révèle très 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 bien, Fabien. Quand tu vois par exemple dans Sens, il y a beaucoup de gens qui me disent non mais moi je suis favorable à la position de Miphos Kadria. Laplace par exemple, regarde les positions de Laplace sur la physique. Quand il dit une pensée capable de calculer l'intégralité des faits serait capable soit d'en enlever un et de voir de calculer du coup les conséquences. Mmh. L'informatique aujourd'hui nous fait rêver. Du chronie réel. Je crois que tu as tendance à trop souvent écarter des possibilités de pensée parce qu'elles te sont tellement unnatural par rapport
étrangère.
À toi, étrangère que. Mais attention, ça existe.
D'accord.
Il y a des gens qui sont, d'accord, à mon avis.
Ça veut aussi dire que tu n'es pas extrémiste et ça, pour moi, c'est plutôt une bonne chose.
Pour moi, l'idéal d'un dogmatique, ce serait ça, justement. Ce serait de montrer, de mettre dans une machine. L'intégralité des lois de la nature telles qu'il les a trouvées et de dire regardez, maintenant imaginons que Nixon n'ait jamais existé et tac, regardez, la machine calcule et voilà, alors aujourd'hui nous serions en temps, etc. Et ça, c'est un idéal à atteindre pour beaucoup et notamment pour ce que j'appelle la foule scientifique, c'est-à-dire non pas le vrai scientifique qui sait ce qu'est la science, mais la foule qui pense la science. La foule qui pense la science est capable de...
Quand tu parles d'un certain type de science, parce que moi je me pense comme scientifique, mais scientifique de sciences sociales.
Oui,
alors il y a des gens qui disent que c'est pas des sciences, mais
dans la science positiviste
ou science dure,
on peut
les sciences dures, tout simplement. Mais regardez, pas plus tard que il y a quelques mois maintenant, je discutais je sais plus avec qui c'était, je me demande si c'était pas avec Emmanuel Meffray, des paramètres biologiques, et elle me disait mais si tel paramètre biologique avait été différent, c'est sûr que j'aurais été comme ça. Et tu vois, rien que déjà de poser des what ifs aussi.
Ça repose sur l'idée d'un déterminisme absolu.
Mais oui,
c'est ça,
mais tout à fait. En fait, on en revient.
Il y a toujours des mêmes effets. À certains effets, il y a toujours les mêmes causes.
C'est ça. On en revient à ces questions de déterminisme et de liberté.
Ce qu'il y a, c'est que moi, comme je fais des sciences sociales, tu ne peux pas penser les sciences. Enfin, si, il y a des gens qui pensent les sciences sociales comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui ne les pensent pas comme ça, dont je fais partie. Mmh. Où justement, il y a ce truc un peu bizarre et flou qui est l'esprit humain. Dans lequel qu'on n'arrive pas à comprendre quoi.
Mais encore une fois, mon discours n'est pas de dire qu'il ne faut pas faire ces expériences de pensée là. Elles sont passionnantes et elles nous apprennent énormément de choses sur nous-mêmes. Mais il faut toujours le faire en gardant à l'esprit, voilà, c'est ça.
En philosophie, c'est une méthode l'expérience de pensée. Hein. Le raisonnement par l'absurde, ça marche. Hein.
Tu sais qu'on s'est rendu compte avec Yann en parlant que c'était une méthode très, comment dire. Tu dis ça parce que tu as eu Philippe en cours, en fait.
Philippe Contine.
Ouais, Philippe un peu Contine. Et Pascal Ludwig, qui sont tous les deux... Et encore un Pascal, je trouve, un peu moins que Philippe. Philippe est vraiment très, très... il travaille vraiment sur les expériences de pensée et tout ça. Et Un jour, vous verrez, on verra l'influence de Philippe sur... très, très intéressant.
Philippe Contine a quoi ? Ça, c'est de l'anticipation. Si Philippe Contine n'avait pas...
Philippe Drapeau Contine. Pas Philippe Contine. Philippe, je confonds avec Philibert Contine, qui est son
homologue.
Son espèce d'homologue ancien. Mais Philippe Drapeau Contine. Mais il y a une manière de penser, en fait, la philosophie par expérience de pensée. On a discuté avec Yann et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas finalement si... mainstream que ça. Nous, on a cette vision que c'est comme ça qu'on... Oui, c'est la philosophie, c'est de penser par expérience de pensée, mais en fait, c'est pas forcément le cas. Mmh. Voilà, c'est juste qu'on a été habitué avec des gens qui pensaient comme ça, mais c'est pas forcément évident. Tu voulais dire quelque chose, Fabien ? Ou...
Non.
Ce podcast n'a que trop duré.
J'aimerais terminer en disant un truc. Au final, l'Uchronie, pour moi, c'est une des plus jolies formes de penser par l'absurde qui est. C'est pour ça que j'aime beaucoup en lire. Et donc,
pourquoi absurde ?
Ben, parce que on estime que quelque chose n'a pas existé. On essaye de voir ce qu'en découle. Et ça, c'est de l'absurde. Enfin...
Ah, c'est marrant, tu vois. Pourquoi ça serait absurde ?
Pour moi, ça me fait vraiment...
Parce que la pensée par l'absurde, c'est pas vraiment ça. C'est que tu
commences
explores...
par une contradiction.
Ah, si tu commences par une... Si, c'est ça, tu commences par une... Si, il a raison. Tu commences par un what if et tu vois à quel point ça te mène à des choses absurdes. Et donc, tu dis, donc ça ne peut pas être autrement
Ah, oui, on n'est pas autant que dans la métamorphose, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui s'en rapproche. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
Ouais, tu postules non A, tu vois que ça mène à des conclusions absurdes. Et donc, tu dis, donc nécessairement A.
D'accord.
Voilà. Mais donc, c'est vrai que ça commence par une contradiction.
Moi, j'avais envie. Enfin, moi, ouais. J'avais envie de dire, voilà, mon propos pour ce podcast, c'est comme 90% des podcasts sur des sujets ADN, c'est dire, allez voir ça, c'est vachement intéressant, allez écrivez-nous des super jeux de rôle du Chrony, qui soient ambitieux, qui soient...
Bossez maintenant, voilà, moi je vous ai apporté un super truc.
C'est pas comme si je faisais aussi ma part de création et d'exploration du jeu de rôle, mais c'est dire, il y a des trucs cool, allez
si
voir.
Si vous manquez d'idées, n'hésitez pas à aller voir la boîte à JDR.
Voilà. Alors, on va avoir des ninjas uchronistes.
Les ninjas uchronistes avec des bombas, ça avait existé.
Kung Fu Ninja contre les hommes araignées. Voilà. Bon, bah, merci Fabien en tout cas d'avoir apporté ce sujet de réflexion.
Ouais, merci
aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir suivis jusqu'au bout.
Exactement.
Parce que je peux imaginer qu'il y a eu des moments un peu.
Mais non.
Et si on refaisait le podcast mais
sans philosophie,
avec
sans
un invité de plus.
Monde.
Et si on avait eu un invité de plus ?
Si on avait eu un invité anglophone spécialiste de l'Uchronie.
Qui est gaucher et puis qui est venu ici à cheval.
Si vous correspondez à cette description, n'hésitez pas à contacter.
On va pouvoir finir le podcast.
À très bientôt, bonne semaine à tous, portez-vous bien et surtout jouez bien, salut !